Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet a priori un peu aride, mais qui ne l'est peut-être pas vraiment, l'Agence française de développement avec son tout nouveau directeur général, Rémy Rioux. Bonjour Rémy Rioux.
Bonjour.
Rémy Rioux, vous avez pris vos fonctions il y a seulement 2 semaines, à peu près, le 2 juin dernier, vous avez 46 ans. Ce poste, c'est une nouvelle étape dans la carrière que vous menez dans la très haute fonction publique française. Après une formation haut de gamme, très haut de gamme, l'École nationale d'administration, Normale Sup, vous prenez plus tard des responsabilités à la direction du Trésor, au ministère des Finances, chef du Bureau Afrique en particulier, et on vous retrouve ces dernières années au cabinet du ministre Pierre Moscovici, toujours à Bercy. Enfin, vous étiez jusqu'à la fin mai le secrétaire général adjoint du Quai d'Orsay en charge des questions économiques. Tout au long de cette carrière, vous avez beaucoup travaillé sur les questions africaines. Pourquoi ?
C'est une passion pour moi depuis longtemps, pour des raisons familiales également.
Lesquelles ?
J'ai fait un stage, ma belle famille notamment, mon épouse a vécu longtemps en Côte d'Ivoire, toute sa famille, j'ai encore de la famille là-bas, j'en reviens d'ailleurs de Côte d'Ivoire. Et j'ai fait mon stage de l'ENA au Bénin en 1997 et ça a été tout de suite un éblouissement pour moi et une conviction que je cultive depuis. Et je remercie beaucoup RFI pour cette invitation. C'est la première fois que je parle depuis ma prise de fonction. Et je sais qu'RFI, c'est bien sûr la radio, une radio essentielle en Afrique, donc une radio tournée vers le monde. Et puis c'est aussi une radio ici en France qui parle du monde aux Français. Et c'est vraiment le projet que je veux conduire avec l'Agence française de développement.
Alors justement, vous êtes au micro de RFI, ce qui tranche avec l'attitude de vos prédécesseurs qui était plutôt rare dans les médias. Est-ce que communiquer pour vous, c'est une priorité ?
Je veux que dans l'émission de l'Agence française de développement, il y ait une dimension pédagogique, de diffusion, d'explication du monde. Les Français ont une grande culture universaliste, ils s'intéressent au monde, ils s'intéressent au développement de plus en plus. Et en même temps, on le sait, il y a cette crainte, il y a cette remise en cause que la mondialisation a sur nos économies, nos sociétés. Et l'Agence française de développement, finalement, c'est un instrument qui peut faire le lien, Et donc ça passe également, bien sûr, par des émissions comme les vôtres.
Alors au cours de cette émission, vous serez interpellé par quelques personnalités qui ont accepté de jouer ce jeu. Frédérique Reuter, directrice France de l'ONG One, et une femme d'affaires éthiopienne, Elena Gebremadin. On va commencer par une question très basique, Rémy Rioux. Pour ceux qui ne le savent pas, et tout le monde ne le sait pas forcément, c'est quoi l'Agence française de développement ?
Alors l'Agence française de développement, c'est l'instrument qui met en œuvre la politique de développement de la France. Elle a été créée, elle a une histoire extraordinaire. Elle a été créée en 1941 à Londres, auprès du général de Gaulle, pour commencer. Alors à l'époque, c'était le Trésor, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations de la France libre. Et elle a progressivement, vous le savez, les territoires d'Afrique progressivement se sont ralliés au général de Gaulle. Et c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui ce périmètre extraordinaire d'intervention qui couvre à la fois l'outre-mer français et 75 pays du monde où nous avons des agences.
Elle est... C'est une administration coloniale ?
Non, absolument pas. D'abord, c'est un établissement financier, c'est-à-dire qu'elle a 3 fonctions. D'abord, elle a une fonction d'intelligence, de connaissance du monde, de production de connaissances. Nous avons un chef économiste qui s'appelle Gaël Giraud qui est très actif sur ces sujets-là, en France également.
Qu'on n'a jamais pu avoir sur les antennes des RFI.
Je lui dirai. Et puis nous avons aussi une fonction financière, bien sûr. Donc on accorde toute une panoplie de produits financiers, des prêts, des dons, des garanties, du fonds propre aux États et aux entreprises, aux sociétés civiles des pays du Sud. Et puis, nous avons une fonction aussi d'appui aux politiques publiques, de gouvernance, d'assistance technique auprès de nos interlocuteurs.
Avec quelle philosophie ?
Alors, la philosophie, c'est Il y a eu, si vous voulez bien, l'année dernière, un peu un grand changement dans la communauté internationale, un peu comme au théâtre. Il y a eu trois coups qui ont été frappés. Donc vous avez eu trois grands sommets internationaux, le sommet d'Addis Abeba sur le financement du développement, le sommet
de New York
sur les objectifs du développement durable, et j'y étais étroitement associé avec Laurent Fabius, le sommet de Paris sur le climat. Et la grande nouveauté de cet ensemble de décisions de l'année dernière, c'est que il n'y a qu'un seul monde, et l'agenda de la France, c'est le même que l'agenda de l'Éthiopie, de la Côte d'Ivoire, de la Colombie, structuré autour de ces objectifs du développement durable.
Et donc, mais vous ferez difficilement croire à nos auditeurs que la France et la Colombie ou la Côte d'Ivoire ont les mêmes objectifs dans leur politique, les chefs d'État.
Les chefs d'État se sont engagés, ils ont sur 17 objectifs très complet, avec toute une série d'indicateurs. Maintenant, évidemment, la mise en œuvre de ces objectifs est très différente selon les pays.
Mais pour revenir à ma question sur la philosophie de l'agence, il y a le mot développement dans l'intitulé de ce qu'elle est, l'Agence française de développement. C'est donc qu'il y a une vision française du développement.
Absolument. Et ce qui se passe là, la vision, c'est ce qui se passe là-bas dans ces pays, nous concerne ici, nous concerne et inversement. Donc je veux vraiment porter une agence.
Mais c'est aussi de favoriser le développement de ces pays-là.
Bien sûr. Toute notre action contribue. Donc on fait plus de 8 milliards aujourd'hui de financement par an. On apporte de nombreux services, on fait de nombreuses études. Évidemment, contribue à lever les verrous dans le développement de ces pays.
Mais l'agence, c'est une banque, c'est un organisme de prêt.
Je vous l'ai dit, c'est l'opérateur de la politique française de développement. C'est son bras armé, son bras opérationnel. Ça n'est pas un simple instrument financier. Je vous l'ai dit, elle a trois fonctions, l'intelligence, les finances et le non-financier, c'est-à-dire tous les services qu'on peut apporter pour renforcer nos interlocuteurs au Sud, auxquels après nous pouvons prêter, donner, apporter des concours financiers. Donc ça n'est pas qu'une banque.
Ouais. Et ça n'est pas l'aide au développement ces dernières années qui a permis l'émergence, la croissance des économies africaines, pour ne parler que de celle-là au cours des dernières années, c'est la hausse du cours des matières premières. Alors, comment est-ce que vous mesurez votre impact?
Alors je suis parti là, passer ma première semaine avec mes collaborateurs, je suis parti immédiatement en Afrique. Donc je suis parti au Cameroun, je suis parti au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Et là, croyez-moi, on constate sur le terrain que l'aide au développement, elle n'est pas suffisante, elle n'est pas le seul ressort évidemment qui va permettre à ces pays de se développer, fort heureusement. Ce qu'a dit le sommet d'Addis notamment, c'est que la première source de financement du développement de ces économies, c'est bien sûr les ressources domestiques. Ce sont les marchés financiers, c'est l'épargne à mesure qu'elle s'accumule dans ces pays et que le système financier local la mobilise pour l'investissement. Mais dans certains secteurs où justement, favoriser l'émergence de systèmes financiers, l'aide au développement peut avoir un rôle extrêmement précieux de levier. Donc, il y a énormément d'exemples, évidemment, que j'ai pu constater dans ces pays.
Par exemple,
écoutez, on est allé à Dakar. Donc, il y a à Dakar un grand projet. Vous avez une autoroute là qui ouais. passe, qui a ouvert de nouveaux quartiers et qui a révélé un certain nombre de problèmes qu'il fallait traiter. Donc là, l'aide au développement, par exemple, je suis allé à Pikine, dans le Pikine irrégulier sud. C'est le nom du quartier qui regroupe 5 communes. Donc ces communes ont été désenclavées par l'aéroport, mais ça fait apparaître de nombreux problèmes de gestion des eaux, d'assainissement, de lutte contre les inondations. Et là, typiquement, l'Agence française de développement intervient dans ce quartier qui entoure une infrastructure privée, en fait, et qui est un investissement privé dans le pays, pour traiter les problèmes sociaux, les problèmes de développement, les problèmes climatiques aussi, puisque évidemment c'est le changement climatique a un effet sur le niveau des eaux, sur ces risques-là. Et ça, seuls les instruments aujourd'hui d'aide publique au développement permettent d'apporter ces réponses.
Alors, l'aide publique au développement, celle que vous gérez, elle n'est pas souhaitée par tous les Africains. Écoutez ce qu'en dit Hélène Gebremadin, une éminente femme d'affaires éthiopienne, qui a rencontré ces derniers jours Stanislas Daichimier.
La coopération avec le secteur public, les bailleurs de fonds, c'est quand même un aspect important, mais je crois que c'est un aspect qui devient de moins en moins important. Par rapport d'abord à l'optique que vous avez dit, l'aide au développement, plutôt penser partenariat et même mieux que ça, penser investissement. en développement. Donc, on peut investir dans des structures de soutien, dans les règles du système, dans l'infrastructure de l'écosystème même, mais vraiment penser que c'est les fonds de soi-disant d'aide ou même de coopération qui vont changer fondamentalement les choses. Vraiment, je crois que ce n'est plus le cas. Je crois que maintenant, on voit que c'est l'initiative des entrepreneurs, du secteur privé, vraiment qui est à la base du développement. Et c'est le sens dans lequel je crois qu'on doit mettre ou positionner le rôle des secteurs publics.
Le secteur public d'aide au développement, l'aide publique au développement, dit-elle, en quelque sorte, s'est dépassé, Rémy Rioux ?
Vous savez, dans les secteurs d'intervention de l'Agence française de développement, le premier secteur d'intervention, pour plus de 2 milliards d'euros par an, sur les 8 que nous formulons, c'est tout ce qui l'appuie aux entreprises, l'appui au secteur productif, amener parfois un peu de fonds propres, amener parfois de la garantie avec les banques, quand les banques ne prêtent pas aux entrepreneurs comme celles que vous avez interviewées en Éthiopie. Donc non, pas du tout. L'Agence française de développement, les instruments de financement, de plus en plus s'orientent comme justement pallier les défaillances de marché, là où le système financier ne fait pas son travail, là où un petit entrepreneur éthiopien ne trouve pas ou le trouve à des taux excessifs, un crédit bancaire, une garantie, un investissement. Donc il n'est pas question que l'aide publique au développement se substitue et fasse le financement de l'ensemble de ces économies, fort heureusement.
Alors, donc, quel est l'objectif du président de la République?
Je reprends juste un exemple. L'année dernière, nous avons fait cette discussion sur le climat.
Oui.
Donc, il y avait deux sujets sur les sujets financiers. Il y avait, vous savez, les 100 milliards de Copenhague. C'est-à-dire, est-ce qu'on allait amener 100 milliards de financement public supplémentaires pour le climat. Donc ça a été un élément très important de la négociation, évidemment, pour démontrer à nos partenaires du Sud que les flux pour le climat allaient augmenter. Et c'est dans ce cadre que les moyens de l'Agence française de développement, le président de la République s'est engagé à ce qu'ils augmentent de 4 milliards. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a cette question des 100 milliards, mais ce qui était extrêmement important aussi l'année dernière, c'était comment on arrive à mobiliser l'ensemble du secteur financier, les banques, les assureurs, les agences de notation, les investisseurs, vers des investissements favorables à une économie bas carbone et favorables à la lutte contre le changement climatique. Et on est même allé très loin, puisque dans l'accord de Paris sur le climat que nous avons négocié, on a élevé justement cet objectif financier comme l'un des trois objectifs de l'accord. On doit atténuer les effets du réchauffement climatique et réduire les émissions à effet de serre. On doit adapter les économies au réchauffement. Et on doit orienter, c'est l'article 2 de l'accord, tout en haut de l'accord. Et on doit orienter les systèmes financiers. Donc, vous voyez, on est vraiment au-delà d'une logique de substitution où les bailleurs de fonds voudraient tout faire. On veut, en revanche, évidemment, être le plus efficace, le plus pertinent, faire le levier le plus fort. Et aussi, bien sûr, vous avez des pays où il faut intervenir parce qu'il n'y a aucune autre offre de financement dans un pays en crise,
par exemple,
certains secteurs de l'économie. Aujourd'hui, on sait bien que dans des pays comme au Mali ou en RCA, où on sort de crises très difficiles, il est important d'amener des ressources en don. Mais justement, l'Agence française de développement, elle déploie tous ses instruments pour s'adapter à la situation économique et à la demande des États où elle intervient.
L'Agence française de développement, elle va disposer de beaucoup plus de ressources dans l'avenir, puisque le président de la République a annoncé que ça allait augmenter.
Absolument.
Dans quelle mesure ?
Il y a eu une annonce très forte du président à New York, puis confirmée, bien sûr. Donc, l'objectif qui m'a été fixé, c'est mon mandat. C'est aujourd'hui, l'Agence française de développement octroie un peu plus de 8 milliards d'euros par an. Et l'objectif, c'est en 2020, qui, vous savez, est une échéance très importante pour le climat, passer les financements annuels de l'agence à 12 milliards par an.
Plus de 12 milliards par an.
Donc c'est 50% de plus, qui est pour toutes les équipes, c'est à la fois très très positif et puis c'est un gros challenge, hein, parce qu'il faut bien sûr assurer la qualité de nos interventions, trouver les projets à financer, mais c'est une perspective évidemment extrêmement dynamique. Et le président a ajouté quelque chose qui est que donc pour atteindre cet objectif, on va doubler nos fonds propres et surtout les dotations en dons, c'est-à-dire des dotations budgétaires de l'État français, devraient progresser de 400 millions d'euros d'ici à 2020. Pour atteindre donc un niveau supérieur de 400 millions en 2020, ce qui évidemment, comme je vous le disais, est très important pour intervenir dans certaines situations très précises.
Mais est-ce que ça veut dire que vous allez disposer de plus d'équipes pour gérer cet argent supplémentaire?
Oui, bien sûr. L'Agence française de développement a engagé un programme de recrutement dès à présent. Nous sommes en train de recruter à peu près 200 personnes supplémentaires.
À Paris ou sur place, dans vos pays d'intervention?
Et sur place. La force de l'agence, nous avons 75 représentations dans le monde, à peu près 800 personnes sur le terrain et dont les effectifs vont augmenter.
Et combien à Paris?
On est 1200 à Paris. On est au total, nous sommes 2000. Et je vois bien là dans ma tournée, puisque je suis en train de voir, je les ai vus ces derniers mois, l'ensemble des interlocuteurs de l'agence. Ce qui fait le prix de l'Agence française de développement, c'est d'une part ses compétences techniques. On a gardé beaucoup d'ingénieurs très pointus sur le climat, sur l'agriculture, sur les infrastructures, sur les grands secteurs qui intéressent nos partenaires du Sud. Et c'est son réseau. Ça, c'est cette proximité, le réseau avec des agents français, bien sûr, mais aussi des agents locaux. Donc ce mix qu'on trouve dans chacun des pays et qui, je crois, nous permet d'être, je l'ai vu d'ailleurs très clairement au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on est vraiment sur les priorités du pays, du gouvernement et des acteurs économiques.
Alors,
du pays.
Il y a des gens qui s'intéressent d'assez près en ce moment à l'Agence française de développement. Ce sont des sénateurs qui ont lancé une mission sénatoriale d'information.
Oui, bien sûr.
Je crois que vous avez été auditionné. Ils doivent divulguer l'essentiel de leurs conclusions le 29 juin. Et pour ce que j'en sais, il y a certaines conclusions qui sont assez critiques sur, en particulier, la manière dont les fonds que vous distribuez, leur usage est contrôlé. Pour faire court, pour faire un peu provocateur, on vous reproche d'alimenter la corruption, de ne pas contrôler assez l'usage des fonds.
Alors ça, évidemment, je ne partage pas ce point de vue. Et puis surtout, quelle est la question,
je veux dire. La question, c'est...
La question, c'est vraiment d'aider les populations dans l'ensemble de nos pays d'intervention. Donc, il faut trouver dans chaque pays, bien sûr, le bon canal.
Chaque dollar dépensé, l'est-il?
Il faut atteindre les populations. Donc ça prend, selon les pays, évidemment, des formes et des instruments différents. On peut passer par le budget de l'État dans un certain nombre de pays. Dans d'autres pays, on passe peut-être plus par des ONG qui interviennent sur le terrain. Encore une fois, c'est vraiment vous dire qu'il faut avoir la panoplie complète d'outils pour s'adapter à la situation de chaque pays. Mais attention, il faut intervenir dans chaque pays, parce que chaque pays, vous le savez très bien, on a des besoins en développement très importants.
L'agence est beaucoup intervenue dans des pays du Sahel, comme le Mali par exemple. Pour quel résultat où en est l'économie malienne, où en est le Mali?
Alors je crois que nous n'avons pas à rougir du tout de nos interventions dans ces pays, compte tenu des difficultés politiques, de sécurité auxquelles ils sont confrontés. Le Sahel, alors je sais que cette mission sénatoriale évidemment porte un intérêt, un accent tout particulier, et nous aussi, parce que c'est une priorité. J'ai vu le président Issoufou d'ailleurs hier, à la situation au Mali, en Mauritanie, au Mali, au Burkina, au Niger, au Nigeria, au Tchad par exemple, et jusqu'en RCA. Donc toute cette zone sahélienne, évidemment, qui est soumise à une très forte pression. Il faut apporter des réponses aux enjeux démographiques. Donc là, il y a aux enjeux agricoles, aux enjeux de sécurité.
Est-ce que l'agence est assez décentralisée? Est-ce que les décisions sont assez prises sur le terrain par vos représentants locaux, ou est-ce que tout est centralisé à Paris? Est-ce que c'est le Trésor, dont vous êtes en quelque sorte l'émanation, le ministère des Finances, qui prend des décisions dans sa tour d'ivoire?
Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai constaté, je vous dis ces derniers jours, là, dans mon premier déplacement, c'est on a des équipes fortes, on est bien dotés sur le terrain. On travaille évidemment en parfaite confiance avec nos ambassadeurs sur place. Et pas question de.
Ils sont informés,
ils donnent des avis sur nos projets, sur leur identification. Donc tout ça et ensuite tout ça se retrouve j'y étais hier, au conseil d'administration de l'agence, où l'ensemble des ministères concernés, pas que le Trésor. Je sais que le Trésor est un objet un peu que je connais bien, est un objet un peu mythique, un peu politique même par certains aspects, mais le ministère des Affaires étrangères est très présent, le ministère de l'Outre-mer aussi, parce que, comme je vous le disais au début, et dans la logique des objectifs du développement durable, l'Outre-mer, je pense, reprend un intérêt très particulier, est aussi présent au conseil d'administration.
Eh bien, nous continuerons à parler de l'Agence française de développement et de ses objectifs dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Géopolitique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à l'aide au développement française avec un invité de marque, Rémy Rioux, le nouveau directeur général de l'Agence française de développement. Rémy Rioux, au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu quelles étaient vos ambitions, à quel point le financement de l'Agence française de développement allait augmenter. Mais l'un des grands débats autour de votre institution ces derniers mois, cela a été l'éventualité d'un rapprochement avec la Caisse des dépôts et consignations, le bras financier de l'État français, qui pèse très très lourd financièrement parlant. François Hollande avait lui-même annoncé au mois de janvier dernier que l'AFD serait en quelque sorte avalée par la Caisse des dépôts. L'objectif, c'était officiellement de renforcer financièrement l'AFD. Vous étiez vous-même partisan de cette intégration, à laquelle vous avez consacré un rapport. D'ailleurs, le président de la République s'est appuyé sur votre rapport pour faire son annonce. On pourrait donc penser que vous avez été nommé pour procéder à cette fusion, et puis non, rien du tout, pas de fusion. Alors est-ce que ça vous fragilise pas ? Laissez-moi poser ma question quand même. Est-ce que ça vous fragilise pas ? Et est-ce que ça ne fragilise pas l'AFD ?
Vous avez eu la gentillesse de rappeler mon parcours jusqu'à présent au début de l'émission.
Oui.
Alors effectivement, moi je connais le ministère de la Défense, je suis passé au ministère de l'Intérieur, j'ai passé 10 ans à Bercy, j'ai passé 2 ans au Quai d'Orsay. Donc je connais bien, je voyais mon parcours, j'ai alterné des fonctions françaises.
Vous connaissez très bien l'appareil d'État.
Et des fonctions internationales. Ouais. Je connais bien l'appareil d'État, je connais bien la Caisse des dépôts et consignations. Quand j'étais notamment directeur de cabinet du ministre des Finances, je les ai beaucoup fréquentés. Et donc cette idée m'est venue de les rapprocher, de rapprocher l'AFD et la Caisse des dépôts.
C'est vous qui avez été l'initiateur ?
Ça a été présenté par des autorités politiques, mais je n'ai peut-être pas été totalement absent
étranger
de ces discussions. Mmh. Tout ça pour vous dire, c'est dans le même esprit que ce que je vous indiquais au début. Ce qui se passe là-bas, ça nous concerne ici. On a les mêmes objectifs en Afrique, en Amérique latine, et en France et en Europe. Et donc, ça n'a pas de sens d'avoir des instruments totalement tournés vers l'extérieur ou totalement tournés vers l'intérieur. Totalement tournés vers l'extérieur, c'est l'Agence française de développement, peut-être historiquement. Totalement tournés vers l'intérieur, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Ce n'est plus ça. Ce qu'il faut, c'est échanger sur nos expériences de développement. La Caisse des dépôts, c'est quoi ? C'est notre banque de développement française. Ça fait 200 ans, cette année, c'est son anniversaire, qu'elle finance, qu'elle appuie les politiques publiques, qu'elle fait progresser notre pays. On a notre expérience de développement. On a réussi des choses, on a échoué des choses, on a accumulé tout ça, on le sait. L'Agence française de développement, c'est quoi ? C'est l'agence qui appuie le développement de nos partenaires. Elle le fait. Et donc, elles ont la même mission. Elles ont une mission d'intelligence, elles ont une mission de financement, elles ont une mission d'appui aux collectivités, aux politiques publiques. Et donc, ça a énormément de sens de les rapprocher. Et donc, on va le faire. Parce que, donc,
il a été annoncé que rapprochement était abandonné.
La première chose que j'ai faite en arrivant à l'agence, j'ai invité Pierre-René Lemas, le directeur général de la Caisse des dépôts, à venir à l'agence. Il est venu déjeuner il y a une semaine à l'agence avec moi. Et on a très clairement établi, on a nommé des responsables pour préparer maintenant ce rapprochement d'ici à la fin de l'année. On a identifié les chantiers. Donc, il y a un chantier stratégique, comme je vous le disais, on a la même stratégie, fondamentalement. On fait les mêmes choses, on fait le même métier. On va coordonner nos réseaux. Ça, je pense que c'est quelque chose très puissant. Imaginez la puissance d'un réseau présent dans 75 pays à l'étranger et d'un réseau, vous savez, comme la Caisse des dépôts est implantée en France, dans chacune des régions françaises. On va aller parler de développement aux collectivités locales françaises, aux entreprises françaises.
Mais
on va leur
vous allez parler de développement extérieur à des collectivités locales françaises qui sont à la diète financière.
Mais il y a beaucoup de responsables, je les connais, je les ai rencontrés, je vais les voir, je vois Roland Ries la semaine prochaine, le président de Cités Unies de France. Il y a énormément de force, il y a énormément d'intentions dans les collectivités françaises, vous le savez, c'est une de nos caractéristiques, pour collaborer par les jumelages, par les programmes, par voilà.
Donc, est-ce que vous attendez de ces collectivités? Laissez-moi poser ma question. Est-ce que vous attendez de ces collectivités une aide financière, une intervention financière?
Il faut que
vous voyez bien que le pays est en train de se refermer sur lui-même.
Eh bien, l'Agence française de développement doit être un agent pour que le pays ne se replie pas sur lui-même. Absolument, c'est mon mandat. Et on peut très bien capter dans les collectivités locales des intentions, dans les services techniques des grandes villes, des grandes régions, des grands départements, il y a des idées de projet, à nous de les capter, à nous de les transformer et à nous de les financer après. Et de trouver les partenaires au Sud, ça fait partie de notre rôle. Et non, ce que je voulais ajouter, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a des intentions de développement venant de France vers nos pays partenaires. Mais ne croyez pas que l'inverse n'existe pas. Il y a des expériences, il y a des solutions. Par exemple, je viens du Sénégal. Là-bas, ils font des paiements par téléphone quotidiennement maintenant. Ça se déploie avant de se déployer en France. Donc on a des expériences à capter dans ces pays et à les amener en France et à les amener à la Caisse des dépôts. Par exemple, la Caisse des dépôts, c'est le grand acteur du logement en France, du logement social. Dans tous les pays émergents, dans les pays en développement, où les populations augmentent, il y a un enjeu de logement exceptionnel, gigantesque. Ça va être un moteur de la croissance, d'ailleurs, la construction, les bâtiments, les travaux publics. Ils vont faire les choses à leur façon. Ils vont faire les choses, et bien, peut-être qu'on va capter, y compris pour notre propre pays, des expériences qui nous seront
utiles. Parce que la politique du logement en France, c'est pas un succès en ce moment.
La politique
Est-ce
du
qu'on
logement
peut donner
repart,
des leçons
le marché. Non, le marché du logement repart, vous le savez. Les chiffres sont très clairs. Je lis pas ça tous les jours, mais je m'y intéresse par mes fonctions précédentes. Donc, pas du tout. Et la Caisse des dépôts peut exporter son savoir-faire dans des pays qui en ont besoin et nous capter des expériences nouvelles mais, qui
par
sont
exemple,
produites dans ces pays.
Vous avez cité le téléphone, le paiement par mobile. Sur le plan du logement, de la politique du logement, qu'est-ce que l'Afrique, par exemple, peut apporter à la France? Comme expérience, comme savoir-faire.
J'arrive depuis 15 jours, je n'ai pas encore des vous voyez, je lance des idées. Je pense que là, il y a un domaine où cette coopération est possible.
Mais revenons
au rapprochement. Rapprochement avec la Caisse des dépôts, il va nous permettre d'autres choses. Déjà, il est très intéressant d'un point de vue des personnels, des ressources humaines. Comme je vous le disais, on a des compétences techniques au sein de l'Agence française de développement qui peuvent être utiles à la Caisse, qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a plus. Et inversement, la Caisse est en avance sur les sujets de numérique, par exemple. Soit directement, soit via sa filiale avec l'État qui s'appelle BPI France. Il se passe, en Côte d'Ivoire, vous avez tout un réseau de start-up. Il y a une effervescence autour du numérique et de la programmation à Abidjan. Connectons ces forces, mettons-les en contact. Et c'est du secteur privé, on ne va pas faire à la place des acteurs.
Mais c'est quand même l'abandon d'une ambition, le refus finalement d'intégrer l'AFD dans la Caisse des dépôts. Dans le rapport dont vous êtes l'auteur, laissez-moi vous citer, après je vous rendrai la main, vous soulignez que le rapprochement AFD-Caisse des dépôts crée un mastodonte de 450 milliards d'euros comparable aux
Absolument.
Agences allemandes de coopération.
Oui.
Alors ce rapprochement ne se fait pas. Est-ce que vous êtes...
Ma conviction, c'est que chaque pays, les pays du Nord comme les pays du Sud, vont se doter d'une banque de développement, d'une agence financière de développement qui fera le développement domestique et le développement international, l'appui à ses voisins. C'est le modèle allemand depuis longtemps. Vous savez qu'il y a cette institution qui s'appelle la KfW qui fait les deux. Les Italiens, je vais me rendre à Rome vendredi prochain, puis j'irai d'ailleurs à Francfort pour voir mon homologue allemand. Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confié un mandat de développement à leur Caisse des dépôts, la Cassa Depositi e Prestiti, pour là aussi se projeter vers l'extérieur. Et nous, on fait pareil. Chaque pays le fait à sa façon, dans son cadre juridique, politique, avec ses institutions. Mais on fait la même chose. Et ne vous trompez pas, les Sud-Africains, les Mexicains, les Chinois, évidemment, les Coréens, ils ont tous des banques de ce type. Et ils sont tous en Afrique. Et ils sont tous dans les pays voisins. Et ils créent des liens entre leur expérience de développement et l'expérience de développement de leurs partenaires.
Est-ce que sous votre direction, l'Agence française de développement va rester une agence africaine?
Alors, la priorité de l'agence, la stratégie, et elle ne changera pas, c'est on fait toujours le maximum en Afrique. Mais on est présent également dans les autres géographies. Donc aujourd'hui, l'Afrique, tout compris, c'est à peu près la moitié de ce que fait l'agence. Mais on fait un
C'est-à-dire
milliard.
C'est-à-dire 4 milliards d'euros.
À peu près. On fait un milliard aussi en Amérique latine. On fait 1,5 milliard dans les Outre-mer français. Et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement important parce que c'est aussi une zone où se fait ce lien entre expérience de développement de la zone géographique dans laquelle je vais à la Réunion avec la ministre, Madame Paul Angevin, début juillet. C'est très intéressant, la Réunion, parce que, évidemment, c'est une collectivité française, donc elle a des liens multiples avec la France et avec son économie. Mais évidemment, elle a des liens aussi très forts avec Maurice, avec Madagascar, avec l'Afrique du Sud, avec les Comores, que je connais bien, et Mayotte.
Sur les 4
millions. Donc, si vous voulez, c'est des territoires où s'expérimentent des logiques économiques, des technologies, des nouvelles.
Et
donc,
sur les 4 milliards supplémentaires.
Va être une grande priorité pour moi.
Sur les 4 milliards d'euros supplémentaires que l'agence aura d'ici à 2020, combien seront affectés à l'Afrique et combien à d'autres pays?
Alors ça, on va, comme j'ai pris mes fonctions le 2 juin dernier.
Donc il y a peu de temps.
Il y a peu de temps, en effet. Mais l'agence fêtera, ce sera un beau moment, fêtera le 2 décembre, qui est une date historique à bien des aspects, le 2 décembre de cette année, 2016, son 75e anniversaire.
Donc, rappelez à nos auditeurs pourquoi le 2 décembre, c'est une date historique.
Napoléon, voilà, je suis historien de formation, donc je sais tout ça. Mm-hmm. Mais dans cette histoire, il y a aussi la création de la Caisse de la France Libre, comme je vous le rappelais au début de l'émission, qui est un point très, très lumineux dans notre histoire. Et donc, on a 6 mois. Vous voyez, entre le 2 juin et le 2 décembre prochain, on a 6 mois, on va bâtir un projet, on va faire le maximum en Afrique, comme je vous le disais, et on va voir ensuite un peu la trajectoire que ça prend. Mais on est aussi en Amérique latine, 1 milliard par an, on est aussi en Asie, 1,5 milliard, on est aussi au Proche-Orient, bien sûr, où il va falloir, j'espère, bientôt que nous soyons très actifs si la situation de sécurité politique se stabilise et s'améliore. On est très présent sur toutes ces géographies, et ça intéresse l'Afrique. Parce que bien sûr, et ça intéresse les autres zones, parce que ce lien que je vous expliquais entre la France et les pays en développement, il se fait aussi en Sud-Sud. C'est-à-dire, on apprend des choses en Inde, on apprend des choses en Chine, on apprend des choses en Colombie. On est très présent en Colombie, qui est un marché extraordinaire. Ça intéresse. Et on l'amène en Afrique, on l'amène outre-mer. C'est ça notre travail, ce travail d'intelligence.
Cette présence un peu universelle, elle inquiète certains des gens qui vous observent, certaines des organisations, en particulier l'ONG One, dont j'ai rencontré la directrice France, Frédérique Roeder, et écoutez ce qu'elle dit.
Alors, je vais vous dire, dans le rapport, par exemple, de Rémy Rio, il y avait l'idée d'étendre l'activité vers l'Iran ou des pays d'Amérique latine. Un opérateur de développement dont la mission reste la lutte contre l'extrême pauvreté doit, à mon avis, surtout améliorer son efficacité et son action dans des pays très pauvres et très fragiles, donc notamment d'Afrique subsaharienne. On sait qu'en 2020, la plupart des personnes vivant dans l'extrême pauvreté vont se trouver dans cette région du monde. On sait que c'est une région du monde qui accueille énormément de réfugiés. C'est une région du monde qui, aujourd'hui, déjà subit beaucoup de conflits. Donc c'est vraiment là que notre aide doit être le plus efficace et doit être concentrée. Donc je ne pense pas que l'objectif de l'AED, ça devrait être d'étendre encore plus, j'ai envie de dire presque s'éparpiller encore plus, mais plutôt de se concentrer là où l'aide de la France est le plus nécessaire. Et d'essayer d'être très efficace dans ces contextes quand même extrêmement, extrêmement difficiles.
Alors, c'était Frédérique Roeder, la patronne pour la France de l'ONG One. C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous recevons Rémy Rioux, le directeur général de l'AFD. Rémy Rioux, qu'est-ce que vous répondez à Frédérique Roeder qui parle d'éparpillement, craint l'éparpillement de l'action de l'agence?
Non, pour moi, il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire, évidemment, je vous l'ai dit, notre priorité, et on fait toujours le maximum, ce sont les pays les plus pauvres, la réduction de la pauvreté, la santé, l'éducation, la lutte contre les pandémies, on fait tout ça, bien sûr. Et d'ailleurs, on le fait, c'est là qu'on concentre les moyens que nous donne le budget de l'État français, puisque c'est ça la ressource, évidemment, la plus précieuse. Vous savez, l'agence, elle se finance de deux façons. Elle va sur les marchés lever des fonds, avec sa signature.
Qui est bonne,
qui est celle de l'État français, en vérité, puisque notre actionnaire, c'est l'État français. Et par ailleurs, elle reçoit des ressources budgétaires additionnelles qui lui permettent soit de faire des dons, soit de faire des prêts à des taux très très bas, puisque la ressource budgétaire vient réduire le taux du prêt. Et donc ça devient évidemment très intéressant pour les pays qui peuvent y avoir recours. Donc non, notre priorité, l'Afrique, toute l'Afrique, les pays les plus pauvres, on y concentre nos moyens. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi intervenir dans le reste du monde et d'ailleurs y apprendre des choses qu'on amène ensuite dans les pays les plus pauvres.
On parlait de l'Iran, Frédéric Roeder.
Oui, mais Madame Roeder sait que l'Iran est un pays en développement. Dans la liste approuvée par la communauté internationale, qui est la liste de l'OCDE des pays en développement. On sait que l'Iran a été en dehors des circuits financiers et des circuits... elle l'est encore, d'ailleurs, vous le savez. Je ne crois pas. Il faut des stratégies géographiques très précises. Je vous en ai décrit une sur les pays pauvres et sur l'Afrique. Il faut aller avec des logiques claires dans chacune des régions du monde, mais avoir un réseau qui a cette couverture, avoir cette diversité de perspectives Compte tenu de cet agenda nouveau, je pense que c'est une très grande force de l'agence que tous nos homologues n'ont pas. Et je pense que, ça, en plus, c'est tout à fait conforme à notre diplomatie, notre ambition, la position de la France dans le monde. Et en tout cas, je n'ai pas de mandat de me retirer d'un continent entier.
Tous les pays pauvres dont
alors,
vous avez
précise,
parlé
je précise, de... pardon, je précise que l'Iran n'est pas ouvert à l'Agence française de développement, puisque notamment, ouais. Vous savez qu'il y a des sujets de sanctions, des sujets ouais. de financement du terrorisme qui ne sont pas levés. Donc, mais ça peut se regarder. Il y a des enjeux de développement importants en Iran. Évidemment, on n'interviendra pas en Iran comme on intervient en République centrafricaine. Ce ne sera pas avec l'argent du contribuable.
Alors, ce sera avec quel argent ?
Ce sera avec de l'argent que l'AFD a levé sur les marchés et prête. Et l'État iranien, il a une signature qui est... Il emprunte plus cher que l'AFD. Donc, vous pouvez lever de l'argent sur un marché financier et le prêter à l'État, je dis l'Iran, mais ça peut être n'importe quel autre, l'État de Colombie, par exemple. Et c'est intéressant pour lui parce que c'est moins cher que s'il s'endettait lui-même. Vous voyez ? Mais là, il n'y a pas d'argent budgétaire dans le prêt.
Beaucoup des pays dont nous avons parlé depuis le début de cette émission, ce sont des pays sahéliens. Vous avez fait toute une liste tout à l'heure. J'avais envie de vous dire, mais cette liste, c'est celle des pays dans lesquels Boko Haram est présent. Ou c'est la liste des pays où, ouais. où ACMI agit, des groupes terroristes,
bien
des
sûr.
Groupes très violents. Est-ce que ça gêne l'action de développement de l'AFD ? Quelle politique vis-à-vis de ça ?
Vous savez, moi j'ai commencé à m'occuper d'Afrique de façon professionnelle, à titre très actif, en 2004, donc maintenant il y a 12 ans. Et je me souviens à l'époque, ça fait étrange, à l'époque on disait l'Afrique est préservée du terrorisme. On disait il n'y a pas de terrorisme, c'était après le 11 septembre, on disait il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Et depuis, malheureusement, la réalité nous a rattrapés. Et,
alors, nous a démenti. Vous a démenti, oui.
La réalité. Je pense pas qu'on puisse attribuer des responsabilités claires à quiconque sur qu'est-ce qui relève de forces qui se sont infiltrées en Afrique, qu'est-ce qui relève de déséquilibre dans les sociétés des pays les plus concernés. Bon, la situation maintenant, elle est celle-là. Donc évidemment, elle pèse sur tout le monde. Elle pèse sur l'action des agences, même si là aussi, la grande force de l'Agence française de développement, j'en parlais avec quelqu'un qui me parlait du Mozambique, par exemple. Les Mozambicains sont très attachés à la France et à l'agence parce que nous, on est toujours restés. Même dans des périodes difficiles, on est restés, on a toujours été là, on a cherché à mobiliser des financements, c'était pas facile, on a eu plus ou moins de possibilités, mais on était là. Et donc, il faut qu'on reste, absolument, il faut qu'on reste. Mais évidemment, en assurant la sécurité de nos agents. Et la question est intéressante parce que dans les objectifs de développement durable, le lien entre le développement et la sécurité a été ouvert dans ce que vous savez qui est des sujets qui ont toujours été très séparés. Et je pense que chacun faisant son métier, il y a là une zone de recoupement très très importante. J'ai vu hier le chef d'état-major des armées françaises et on est allé discuter un petit peu justement de ces sujets. Et lui, il est très clair, il sait très bien où s'arrête l'action militaire. Il ne fait pas de développement. Il sait très bien qu'il faut que derrière des actions de développement s'enchaînent très vite pour stabiliser la situation et pour qu'on n'ait plus recours à l'outil militaire qui en soi n'a pas de fin. Donc ça, c'est très important. Et en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire. Je me souviens très bien en 2011. Qu'est-ce que s'est-il passé en 2011? Il y a eu cette crise, vous savez, électorale, qui a duré de longs mois. Et le 11 avril 2011, la crise a été résolue, le président Gbagbo, Laurent Gbagbo a été déposé à ce moment-là, vous le savez.
Arrêté.
En tout cas, il y a eu la fin de cette situation politique complexe. Qu'est-ce qui s'est passé ? 3 jours après, le jeudi 14 avril 2011, le conseil d'administration de l'Agence française de développement s'est réuni et a approuvé un prêt à l'État de Côte d'Ivoire de 350 millions d'euros. Donc dans un délai, vous voyez, je veux une agence qui est rapide, qui est agile, qui est pertinente, qui apporte des réponses aux solutions, aux questions de terrain, aux problèmes de terrain. Et ces 300, la Banque mondiale, le FMI, la communauté internationale, elle est revenue en Côte d'Ivoire, bien sûr. Elle a voulu aider la Côte d'Ivoire, mais avec ses procédures, avec sa lenteur aussi parfois. Elle est revenue 6 mois après. Mais nous, on a apporté des ressources immédiatement, qui a permis de remettre des gens au travail, qui a permis de stabiliser le nord du pays, qui a permis à Abidjan de rétablir la situation. Et ben moi, je suis très fier de ça.
Est-ce que ça favorise les entreprises
françaises? Et c'est pas un mélange entre sécurité et développement. Vous voyez, c'est consécutif. C'est pas la même chose. On est très clair là-dessus.
Ce que vous dites de la réactivité de l'Agence française de développement, de ses interventions en Afrique, est-ce que ça favorise les entreprises françaises?
les entreprises sont des acteurs du développement. Moi, j'ai dit devant la représentation nationale, je suis allé au Sénat, je suis allé à l'Assemblée pour recevoir cette onction, ce soutien. J'ai dit que je voulais une agence encore plus partenariale, très partenariale. On a parlé des collectivités locales, on a parlé des ONG, on a parlé des gouvernements, mais il faut parler des entreprises aussi, bien sûr. Vous l'avez dit, c'est pas l'aide au développement qui va développer ces pays. Ce qui compte, c'est les investissements dans ces pays. Quand on rencontre un chef d'État, j'ai vu le président Macky Sall, j'ai vu le président Ouattara, j'ai vu le président Issoufou, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, nous, on veut des investissements français. On veut que les entreprises françaises, alors pas à n'importe quelles conditions, pas avec des marges gigantesques, pas sans respecter les normes sociales et environnementales, pas sans emploi local. Donc évidemment, il faut être très, c'est du développement, donc il faut être très vigilant. Mais il y a cette attente, il y a cette attente. Et l'Agence française de développement peut être un agent dans ce sens aussi. Par mais attention, le sujet, c'est pas seulement est-ce que je récupère les X% des financements de l'AFD. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est si vous croyez à ces pays, si vous croyez à leur avenir économique, investissez dans ces pays. Venez, ouvrez des filiales, ouvrez des activités. Et là, l'Agence française de développement sera là et elle vous accompagnera avec ses instruments financiers.
Par exemple, quand un entrepreneur comme Vincent Bolloré lance un énorme projet de boucle ferroviaire en Afrique de l'Ouest, est-ce que l'Agence française de développement regarde ça, y est intéressée, apporte des financements?
Pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, pour des le ferroviaire a un avenir en Afrique, bien sûr.
Mais vous répondez pas à ma question là. Est-ce que concrètement,
oui, on regarde, bien sûr, on regarde tous les projets qui sont en gestation en Afrique et on regarde comment les appuyer, s'ils font du sens, s'ils sont soutenus par les autorités. J'étais à Dakar. Vous connaissez la magnifique gare de Dakar. Elle est fermée depuis 2006. Ce magnifique bâtiment. Les gens s'arrêtent à la station d'avant. Eh ben, on a monté un projet là qui est en train d'avancer, qui est très fortement soutenu par le président du Sénégal, de train express régional qui va relier Dakar jusqu'à Diamandio, l'aéroport, puis ensuite vers au-delà, le long de l'autoroute. Et ben ça, évidemment, on est là. On va regarder. On est en train de voir quel financement on peut apporter sur un projet de ce type. Et les entreprises françaises sont intéressées. Elles répondront. Elles seront présentes. C'est du développement, tout ça.
Le modèle chinois n'est pas un danger pour vous.
Le modèle chinois,
ce que j'appelle le modèle chinois, c'est des prêts non concessionnels,
Oui, bien sûr. Il faut être très, l'Afrique se réendette, ça, vous le savez.
Oui, j'allais vous en parler.
C'est une bonne nouvelle. Ça prouve que beaucoup de pays africains ne se financent pas que par des dons, mais se financent aussi par des prêts. Et on n'a jamais vu un pays qui émergeait uniquement avec des dons. Donc, il faut des instruments financiers plus sophistiqués et pour des volumes plus importants. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais, évidemment, moi, j'ai présidé plusieurs fois le Club de Paris, qui est la structure, vous savez, qui réunit tous les créanciers, y compris les Chinois maintenant, pour rééchelonner, voire annuler la dette des pays qui ont des difficultés de paiement. Il faut faire très attention à ce que ces pays ne reviennent pas dans une situation de surendettement. Ils sont restés 20 ans coincés dans cette situation. Donc oui, il faut financer aux conditions adaptées à la capacité financière du pays.
Et justement,
mais il faut financer.
On va retrouver Frédéric Roder rapidement, la directrice France de l'ONG One, qui elle milite pour des dons et pas pour des prêts. Écoutez-la.
Les prêts peuvent être tout à fait intéressants dans des pays qui sont en train d'émerger économiquement, qui sont plus solvables, et où on peut utiliser le prêt aussi comme porte d'entrée pour apporter par exemple une assistance technique pour s'assurer par exemple que les projets d'infrastructure sont véritablement socialement et aussi en termes de climat ce qu'on souhaite voir. Donc là, ça a toute son utilité. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le prêt n'est pas un outil tout puissant. Et c'est là aussi que j'attends que l'AFD et Rémy Rioux clarifient les choses et alertent le gouvernement. Dans certains contextes, notamment les contextes les plus pauvres, les plus fragiles, il faut des dons. Et depuis 2008, on a vraiment une érosion des dons de l'AFD. Il y a eu un léger rebond l'année dernière, donc ça c'est positif, mais c'est pas du tout suffisant. Ce n'est pas l'AFD qui prend les décisions budgétaires, mais je pense que c'est à l'AFD de montrer au gouvernement qu'elle n'a pas les capacités d'agir dans les pays les plus pauvres et ne pas faire croire que tout est possible avec du prêt.
Vous êtes d'accord avec ça?
Je suis totalement d'accord avec Frédéric Roder. D'ailleurs, j'ai pas entendu dans son propos initial qu'elle militait contre les prêts. Elle dit simplement, il y a des pays où on peut faire des prêts, ouais, et absolument. Il y a des pays où on peut pas faire de prêts. Et dans les pays où on peut pas faire de prêts, ou en tout cas c'est plus compliqué, il faut faire des dons. Mais j'ai dit pas autre chose. Et je vous ai même dit que le président de la République avait annoncé une augmentation des dons d'ici progressivement d'ici à 2020. Donc évidemment, ça va être une bagarre. Et l'Agence française de développement, elle va tout ça.
Ça va être une bagarre avec qui?
C'est avec le budget, avec tout le monde évidemment.
Avec l'administration française.
In fine, c'est le Parlement qui vote le budget. Mais il faut faire. Vous savez bien que c'est pas moi qui dirais le contraire. On est dans une stratégie de réduction des dépenses publiques. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et je crois que la politique de développement le mérite. Qu'on peut être fier de ce qu'on fait. C'est le message que j'essaie de vous passer. Et qu'on peut nous confier plus de ressources. Évidemment, charge à l'Agence française de développement. C'est la poule et l'œuf, cette affaire. Charge à l'Agence française de développement de venir chez vous, d'être convaincante, de présenter des projets. Et ensuite, d'avoir les moyens qui y correspondent.
Dernière question, Rémy Rioux, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Vous parlez beaucoup de l'action française bilatérale, mais assez peu de l'action européenne. Est-ce que c'est pas l'un contre l'autre ou l'un avec l'autre?
Je vous ai dit, vendredi prochain, je suis à Rome. La semaine d'après, je suis à Francfort, pardon. Je vais ensuite à Bruxelles et je vais à Luxembourg. Donc entre juin et juillet, j'irai voir les Italiens, les Allemands, la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement. Donc pas du tout. On a des liens très forts avec la Commission, avec tous ces acteurs. Et il y a un système européen d'aide au développement qui se développe. Vous savez que l'Europe apporte plus de la moitié de l'aide publique au développement du monde. Avant de nous séparer, vraiment, et si nos auditeurs doivent retenir une seule chose de cette émission, je voulais juste dire, la politique de développement change, elle se renforce, elle nous concerne tous, et l'Agence française de développement sera vraiment l'agent puissant de cette transformation.
Merci Rémy Rioux, Victor Ouvrard a réalisé et mis en onde cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.